Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Donc, merci d'avoir accepté cette interview aujourd'hui. Donc, nous allons parler de l'affordance. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu voilà, qui vous êtes, quel est votre domaine de recherche et puis comment vous en êtes arrivé à travailler sur l'affordance?
Donc, moi, je suis professeur d'université à l'université Lyon 2. Je travaille donc en sciences de l'éducation dans un institut qui s'appelle l'Institut des sciences et pratiques en éducation et formation et puis dans le laboratoire éducation culture politique. Donc en fait, j'ai depuis ma thèse et depuis jusqu'à aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé sur la conception d'environnement numérique pour l'apprentissage. Et puis, donc c'est un champ qui s'appelle de manière très générale les technologies de l'éducation, qui s'inscrit donc dans les sciences de l'éducation. Et je me suis intéressé, en fait, pourquoi je me suis intéressé à l'affordance? Parce que je me souviens, le jour de ma thèse, de ma soutenance de thèse, qui était sur les hypertextes et les processus cognitifs, il y a un membre du jury qui m'avait demandé, mais comment vous pouvez tenir compte du contexte? Et ça m'avait beaucoup travaillé, parce que j'ai dit, comment on tient compte de l'environnement, comment se joue le rapport entre un sujet et un environnement, comment le sujet peut modifier l'environnement et puis comment on peut bénéficier de l'environnement sans en être assujetti, sans en être un automate, quoi, notamment avec aujourd'hui le numérique. Et donc c'est pour ça que je me suis intéressé petit à petit à l'affordance, parce que c'est la volonté de travailler sur une approche écologique de l'apprentissage et de la formation. Donc c'est pour comprendre comment se tissent les relations entre ça peut être un professionnel de l'éducation, ça peut être une personne qui est un étudiant ou un élève, et puis l'environnement qu'on lui propose. Voilà à peu près pourquoi je me suis intéressé.
Très bien, merci. Et donc alors comment est-ce que vous définiriez de manière très simple l'affordance et à quoi est-ce que ça s'applique particulièrement?
Ben, c'est un peu. Pour moi, il y a deux acceptions de l'affordance. Hein. Il y a une acception qui est la plus connue aujourd'hui, qui date, on peut dire, de 1988, avec un auteur qui est Norman, qui est de concevoir des outils qui sont adaptés à des besoins des individus et à leur environnement physique et culturel. Donc, ça, c'est. Ça peut intéresser pas mal ceux qui conçoivent des formations. Donc ça veut dire ben, recueillir des besoins sur, par exemple, où travaillent des étudiants, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour apprendre, etc. Donc ça, c'est la partie ergonomique. Et sinon, pour moi, l'acception première de l'affordance, c'est qu'on perçoit des potentialités de l'environnement en fonction des besoins que l'on a, presque indépendamment de la conception, je dirais, que du projet de conception, quoi. Donc par exemple, si lorsqu'on se développe avec mais quand on est nourrisson, c'est vrai que c'est un exemple que je prends souvent, quand on est nourrisson, ben on développe le rapport au monde par la succion. Bon, que la tétine existe ou pas, ça change rien. C'est donc notre manière dont on perçoit l'environnement et dont on comprend l'environnement lié à notre propre développement. Et moi, c'est ça qui m'intéresse surtout. Voilà, pour découvrir des propriétés du monde qui n'existent pas avant qu'on les découvre. Donc par exemple, c'est bien parce qu'on a compris comment on pouvait respirer dans l'air et faire voler des objets dans l'air qu'on a créé les avions et qu'on a pu se déplacer. Donc l'affordance, c'est ce rapport qu'il y a entre le sujet et l'environnement qui nous permet de découvrir des propriétés du monde pour pouvoir agir différemment qu'avant.
D'accord. Et donc vous, au niveau scientifique, vous avez contribué à élaborer ce concept aussi. Comment est-ce que vous vous positionnez, comment vous positionnez vos travaux finalement par rapport à ce qui existe déjà comme réflexion sur le sujet?
Ouais, donc dans l'histoire du concept, il y a au tout début, même si l'auteur qui est Gibson n'a pas travaillé que sur des approches je dirais perceptivo-motrice, hein, puisqu'au début il travaillait sur les cartes routières, mais on va dire qu'il y a eu tout un pan comme ça sur les aspects visuels, auditifs, et puis après il y a eu une partie plus cognitive qui date des années 80, donc où on a tenu compte de l'intention du sujet par exemple, où on a tenu compte aussi de l'aspect social. Donc ça date des années 2000, ou des aspects culturels, donc par exemple Il y a des objets qui, selon l'environnement, n'ont pas du tout la même signification et positionnent les individus entre eux. Si on prend un amphithéâtre, par exemple, lorsqu'on rentre dans l'amphi, tout le monde sait où il doit se positionner selon qu'il est enseignant ou étudiant. Donc ça montre bien que les objets, ils ont une signification culturelle et sociale parce qu'ils disposent les individus. Et moi, j'étais assez attiré par ça. Et notamment sur un aspect plus, j'ai tiré un petit fil, c'est plutôt sur les aspects plus institutionnels ou politiques. Mm-hmm. C'est-à-dire que les règles nous donnent une perception des outils très différente. Par exemple, le fait qu'on ait 18 ans et qu'on puisse voter ou pas voter, qu'on puisse avoir un permis de conduire ou pas, ben, ça change notre rapport à l'outil. Donc l'idée, c'est comment un environnement, on peut prendre numérique, hein, mais comment par rapport à cet environnement numérique, par exemple, on veut développer une plateforme d'apprentissage, les professionnels de l'éducation et de la formation, ils sont obligés de l'utiliser. Comment on va faire en sorte qu'ils perçoivent positivement cet environnement et surtout que qu'ils en tirent des bénéfices. Donc moi, je suis plutôt sur les dimensions sociopolitiques.
D'accord.
Voilà.
Et donc, en effet, vous avez parlé des environnements numériques, de l'amphithéâtre, par exemple.
Ouais.
Vous auriez d'autres exemples d'objets ou d'environnements qui soient à la fois affordants ou non affordants, dans le domaine de la formation particulièrement ?
Alors là, si on prend la théorie de l'affordance, l'affordance est une potentialité offerte, donc elle existe toujours qu'on l'aperçoive ou pas. Quand il y a une chaise, par exemple, elle nous offre une potentialité de nous y asseoir ou de se mettre debout dessus ou de casser une vitre. En tout cas, ce qu'elle offre, ça dépend c'est lié à ses propriétés. Donc les propriétés d'une chaise, par exemple, on a la stabilité du socle. On a aussi les pieds qui ont d'autres propriétés. L'idée, c'est qu'il y a toujours... la potentialité, elle est toujours là. La question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on l'aperçoit ou pas, cette potentialité. Par rapport à ça, il y a à peu près deux grandes orientations. Il y a ceux qui pensent que, et c'est une des critiques qu'on fait au concept d'affordance, qu'on peut conditionner les choses. Mais prenons un exemple simple. Si on utilise une plateforme d'apprentissage et que j'utilise un forum de discussion, et dans ce forum, je dis si vous produisez 100 messages, vous avez 5 points de plus. Mm-hmm. C'est une manière incitative d'utiliser l'outil. Donc il y a ceux qui pensent que l'affordance peut être conditionnée par des règles extérieures. Et ceux qui sont plutôt, et ça, bien sûr que ça existe aussi, mais et ceux qui sont plutôt du côté de en quoi la potentialité est liée à un besoin qui est soit construit historiquement par l'individu, tant que socioculturel, ou très premier. Hein, en quoi la potentialité me permet de me développer et d'être libre, puisqu'il y a un autre principe dans l'affordance, c'est le principe de découverte et de liberté. Mmh. Donc tous les outils qui enferment, tous les outils qui empêchent de discuter avec quelqu'un d'autre, eh bien, c'est des outils qui sont contre-productifs du point de vue du développement humain. Donc il y en a plein d'outils où on est tout seul et où on est dépendant de l'outil. Donc c'est l'inverse, l'affordance, c'est de permettre à un individu de bénéficier de l'outil presque indépendamment de l'exigence du concepteur, quoi. Par exemple, le logiciel Word, on n'a pas besoin d'être un pro du style CSS pour l'utiliser. Mm-hmm. Voilà. Donc c'est ça.
On sait un peu comment on va l'utiliser, on sait où aller chercher globalement ou comment on va...
Pour Word, par exemple.
Ouais.
Sur les logiciels de traitement de texte, c'est lié au fait qu'on est passé d'un document physique à un document numérique et qu'il faut un savoir écrire, ce qui est une condition quand même. Et puis après, c'est suffisamment souple comme outil pour juste écrire au kilomètre, mettre des points pour faire une table des matières. Et donc même si le concepteur a prévu des choses automatiques, on n'est pas obligé de les utiliser. Donc c'est la plasticité de l'outil à l'utilisateur. C'est comme une offre dans les environnements numériques de travail actuels. Par exemple, on a une plateforme d'apprentissage, on a nous un outil de collaboration, Teams, etc. En ce moment, on fait une enquête sur les étudiants et on s'aperçoit qu'ils combinent plusieurs outils, ils peuvent passer de l'un à l'autre. Donc ce qui compte, c'est de leur offrir quelque chose qui soit suffisamment large pour qu'eux puissent l'adapter à leurs besoins et à leur manière de travailler. Et pas l'inverse, pas que l'outil conditionne la manière de travailler.
Donc ça veut dire qu'il y a quand même une dimension d'apprentissage qui est fortement présente.
Il y a une dimension technique.
D'appropriation peut-être aussi.
Il y a une dimension je dirais, qu'on pourrait appeler de compétences techniques. Il faut savoir manipuler l'outil. Il y a le fait que l'outil, il s'inscrit, il est proche d'un savoir qu'a déjà l'étudiant ou l'enseignant. Par exemple, un tableau numérique interactif, il y avait des tableaux. Donc, historiquement, ce n'est pas compliqué à faire le pas. Et ensuite, par contre, dans la situation elle-même, on va découvrir de nouvelles potentialités. Donc, il ne faut pas forcément faire du nouveau pour innover. Il faut commencer par reproduire ce qu'on sait faire avec quelque chose de nouveau. Et puis, du moment qu'on l'a fait, on va trouver de nouvelles possibilités. Et donc, la fausse affordance, ça n'existe pas vraiment. Il y a des, enfin, si, il y a un auteur qui parle de fausse affordance, d'affordance cachée, etc. Mais l'affordance, elle n'est pas performative, en fait. L'affordance, c'est percevoir quelque chose sans, en pensant que c'est bien pour nous, sans en avoir les conséquences. Par exemple, vous marchez, vous voyez du sable, vous pensez que c'est suffisamment stable, vous marchez, c'est du sable mouvant, vous vous enfoncez. Bon, elle n'est pas performative, c'est-à-dire vous apercevez que ce n'est pas optimal, mais en tout cas, ce qui compte dans l'affordance, c'est les raisons pour lesquelles on déclenche l'action. Ce n'est pas le résultat de l'action. Ça, c'est une deuxième phase. C'est déjà de savoir qu'est-ce qui fait que je rentre en relation avec les objets et pour quelles raisons je peux, par exemple, me déplacer sur un sol. Et si, voilà, c'est un exemple. Mais il y en a, on peut en prendre plein. Donc, il y a des tas de choses qu'on fait et sans pour autant, à la fin, qu'elles soient bénéfiques. On a créé des voitures, par exemple. Et puis on s'aperçoit que ça pollue, même si on le savait. Donc, c'est pas les conséquences qui nous intéressent, c'est le pouvoir d'agir. Et donc, moi, ce qui m'intéressait dans l'affordance, pour revenir à une question de tout à l'heure, c'est quelque chose qu'avait écrit Gibson en 79, c'est la confiance qu'on a à l'outil, donc à la boîte postale. C'est pas à la boîte postale que je fais confiance, c'est au système dans lequel se situe la boîte postale. Donc, ce qui veut dire que quand j'utilise un courrier électronique, quand j'utilise une plateforme d'apprentissage, quel que soit l'outil que je mobilise, ce n'est pas l'outil qui compte, c'est le système dans lequel il est. Et donc, je porte un regard non pas sur l'outil lui-même, mais sur le système. Soit j'ai confiance au système, et à ce moment-là, je vais l'utiliser, soit le système me contraint, et je fais le choix de l'utiliser, ou je finis au chômage parfois, ou ça devient compliqué pour moi, ça dépend des systèmes de coercition, ou alors j'ai confiance au système, et donc à ce moment-là, je l'utilise.
Et alors, dans le domaine plus spécifiquement de la formation, en quoi est-ce que l'affordance, ou tenir compte de l'affordance, peut être intéressant, que ce soit pour les enseignants, pour les ingénieurs pédagogiques ou autres professionnels de la formation?
Il y en a plein. Hein. Il y a d'abord l'idée première, c'est que ce n'est pas l'outil qui dit ce que je dois faire. Donc, ça ne sert à rien de demander à quoi ça sert, en fait. Ça sert à ce qu'on veut que ça serve. Si on ne perçoit pas le besoin, c'est que déjà, il n'est pas adapté à mes besoins. Donc, la première chose, c'est d'être moins conditionné par l'outil, moins, comment dire, dépendant de l'outil, comme si c'est l'outil qui décidait ce qu'il fallait faire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si on veut transformer les choses et que les acteurs, que ce soit les élèves, les étudiants, les formateurs, les éducateurs, utilisent l'outil, il faut travailler sur le système dans lequel ils sont par rapport à l'outil. Donc par exemple, si je prends le cas que je connais bien de l'université, lorsque j'utilise aujourd'hui une plateforme d'apprentissage dans le cadre d'une formation en présentiel, il n'y a pas de valorisation de la ressource pédagogique. Je ne suis pas payé en plus pour ça. Si je développe de la formation à distance, il faut que ce que je fasse pour la formation à distance soit prévu dans mon service. Donc, et ça n'existe pas. Aujourd'hui, statutairement, c'est à chaque université de s'adapter. Donc ça veut dire qu'il faut que l'institution se dote de règles pour promouvoir l'usage de l'outil et le rendre dans une activité ordinaire. La deuxième chose, c'est qu'on a très peu de données sur la manière dont travaillent les élèves ou les étudiants. C'est-à-dire qu'un enseignant qui dit « tiens, je vais mettre un forum, un chat et tout », lui-même, il reproduit l'aspect autoritaire qu'il peut reprocher à une institution qui lui impose une plateforme. Alors, c'est quoi les besoins des étudiants pour apprendre? Est-ce qu'ils écoutent? Est-ce qu'ils travaillent dans le tram? Est-ce qu'ils utilisent le smartphone? Est-ce qu'ils utilisent une tablette? Est-ce qu'ils sont seuls chez eux? Est-ce qu'ils travaillent dans le calme? Est-ce qu'ils travaillent à plusieurs? Donc, si on n'a pas ça, On ne peut pas concevoir des environnements adaptés aux apprentissages. Donc ça veut dire aussi qu'il faut travailler sur obtenir des données sur la manière dont les étudiants ou les élèves, ils apprennent, leur lieu d'apprentissage, etc. Sinon, on a des choses très inadaptées, quoi. Et un exemple très connu qui est aussi les environnements universels pour les personnes en situation de handicap, on voit bien qu'il y a des tas d'endroits, mais pas qu'à l'université. Si vous prenez le milieu juridique, aujourd'hui, quand vous faites un crédit à la banque, lorsque vous devez signer un acte notarié, tout se fait par un système PDF qui assure la garantie juridique du document et sa sûreté. Donc c'est un outil qui est socioculturellement pertinent, quoi. Mais si vous êtes un aveugle ou un déficient visuel, vous n'avez pas de système compensatoire, contrairement aux mails, etc. Donc c'est inadapté pour le public. Et bien là, on voit qu'il y a des écarts entre ce qui peut être normé par des outils en termes d'usage par une communauté et la spécificité des individus qui, eux, ne peuvent pas l'avoir. Voilà, ça, c'est exactement ce que travaille le... Donc ça se comprend du point de vue environnemental, mais pas du point de vue du sujet. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Oui, c'est... tout à fait, merci. Voilà. Et alors, question du coup qui découle aussi un petit peu de ce que vous venez de dire, et plutôt par rapport à votre démarche scientifique de recherche, comment est-ce que vous travaillez finalement, vous, sur cette notion, et comment est-ce que vous exploitez les données ou les conclusions que vous pouvez tirer en fait de vos recherches, et comment après les appliquer en fait?
Bah, oui, alors bon, ça dépend, il y a plusieurs... c'est large. La première chose, c'est de se dire que d'abord, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'une personne pense qu'elle est capable de faire. Donc, puisque l'affordance, c'est d'abord, je me sens capable de faire quelque chose. Je me sens capable d'utiliser ça pour apprendre. Je me sens capable de monter des marches. Bon, ce qu'on appelle le possible. Donc, au départ... On va décrire l'environnement, on n'a pas besoin de la personne, hein. On va décrire l'environnement physique, on va récupérer les textes de loi, ce qui régit l'activité, même des travaux anciens sur, par exemple, qu'est-ce que l'enseignement à l'université. Donc je vais travailler sur ce qu'on va appeler les conditions environnementales. Et puis une fois que j'ai recueilli assez de données pour caractériser l'environnement et l'activité à conduire, je vais m'intéresser au sujet. Donc là, la première phase, c'est... si on est sur un environnement numérique, par exemple une plateforme d'apprentissage, qu'on lui met à disposition le courriel, le forum, le chat, des ressources, une classe virtuelle, des tas d'outils, des tas de fonctionnalités, je vais lui dire, on va essayer déjà de savoir ce qui est pour lui, de quoi il a besoin pour apprendre et en quoi il se sent capable d'utiliser les outils pour atteindre les objectifs qui sont en général fixés par l'enseignant, mais qui se fixent aussi lui-même. Donc la question, c'est qu'est-ce que je perçois comme possible? Après, dans la deux, est-ce que ce qui est possible, je l'actualise ou pas? Parce qu'on peut tout à fait voir quelque chose qui est possible de faire, et puis à la fin, je décide de ne pas le faire. Il y a des tas, ça peut être l'effet du groupe, l'enseignant, etc. Et puis après, une fois que c'est actualisé, donc lorsque le possible devient une possibilité, on va dire que c'est là qu'il y a l'affordance, quoi, en fait. Hein. L'affordance, c'est lorsque le possible devient effectif. Donc j'utilise quelque chose pour, par exemple, faire des travaux de groupe, etc. J'utilise une forme de discussion pour collaborer. Et donc à ce moment-là, j'essaie de toujours... on fait des entretiens, on analyse ce qui se produit, par exemple, sur les forums de discussion. Et puis après, on fait un... En ce moment, on travaille sur un questionnaire, parce qu'il n'y a pas de questionnaire qui existe sur l'affordance, pour regarder qu'est-ce qui rend possible la possibilité effective. C'est-à-dire, qu'est-ce qui agit sur votre prise de décision, en gros. Et une fois que j'ai ces éléments-là, en fait, je peux tout à fait reproduire la situation pour un autre public et rendre efficace la formation. Donc l'idée, c'est une fois que je sais de quoi on a besoin, pourquoi on en a besoin, dans quelle activité, et que j'ai les conditions dans la situation elle-même, c'est-à-dire dans ce qui s'est passé, comment agir, qu'est-ce que l'enseignant a fait, est-ce qu'il répond sur forum, sur chat, est-ce qu'il répond toutes les semaines, tous les deux jours, j'en sais rien. Une fois que j'ai l'ensemble de ces éléments, je sais je peux reproduire l'environnement. Donc il y a un côté prédictif. Mmh. Et puis, le troisième élément dans le côté prédictif, c'est que normalement, on est capable, pour partie, d'identifier les propriétés qui caractérisent l'environnement. Donc, par exemple, même si la personne n'en a pas conscience, par exemple, pour... Alors, c'est un sujet qui est vif parce que tout le monde... Bon, mais c'est un sujet de débat encore aujourd'hui, mais par exemple, pour respirer, vous avez besoin de l'oxygène. Bon, pour vous asseoir, vous avez besoin de la gravité. Vous n'en avez pas conscience de ça. C'est pourtant la propriété qui vous relie ou à la chaise ou au monde. Donc, du point de vue socioculturel et du point de vue de l'apprentissage, on a des invariants aussi. Par exemple, on a besoin d'apprendre, on a la dimension sociale, on a la dimension affective. Mmh. Il y a des dimensions cognitives sur la mémorisation, sur la généralisation. Donc, on a un ensemble d'invariants, c'est-à-dire d'éléments qui caractérisent le rapport qu'on a avec un environnement. Et ça, que le sujet le perçoive ou pas, c'est présent. Et donc, nous, ce qu'on regarde, c'est est-ce que c'est présent, perçu et mobilisé tel quel, ou est-ce que c'est présent, perçu et, pour le coup, transformé. Mm-hmm. Voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'on a changé la propriété de l'environnement ?
Une notion de détournement ?
Il peut y avoir des notions de détournement ou de catachrèse, mais c'est surtout la propriété structurelle. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on utilise une plateforme et qu'on est en plus étudiant ou enseignant, c'est-à-dire qu'on n'est pas administrateur du système, nous, on ne peut pas changer la structure même de la plateforme. On peut changer la fonctionnalité. Mm-hmm. Donc, en fait, on ne change pas la propriété. De ce point de vue-là, il n'y a pas... C'est une affordance où la propriété telle que présente dans l'environnement reste à l'identique. Elle n'est pas transformée, la propriété. Ce qu'on regarde, c'est est-ce que la propriété, elle est identique à celle du concepteur ou elle est transformée par le sujet. Donc ce qui nous intéresse, c'est de comprendre les variations, c'est-à-dire en quoi des groupes d'individus, vous prenez une classe, il y a plusieurs groupes possibles. On va catégoriser les groupes en fonction de leur manière de percevoir ces invariants, de percevoir des propriétés de l'environnement mm-hmm. différentes. Et donc, on a les raisons pour lesquelles.
Ensuite,
chacun a besoin.
Les pousses à l'action derrière.
Ouais, voilà. Donc, ça marche assez bien. Mais par exemple, vous pouvez détourner des propriétés sans le savoir. Hein, lorsque vous faites un théolé. Si vous mettez l'eau et le lait ou le lait et l'eau, ben, dans un des deux cas, vous perdez la propriété du lait. Donc, l'idée du chercheur, c'est quand même de travailler sur ces propriétés-là à un niveau assez fin quand même. Et moi, je regarde plutôt si l'environnement institutionnel se transforme. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une tolérance des règles, même si elles ne sont pas... officiel si on tolère les choses. Par exemple, dans les hôpitaux, les professionnels, ils utilisent des téléphones portables alors que c'est interdit. Ou est-ce que l'institution, elle transforme certaines de ses propriétés organisationnelles, oui. réglementaires, statutaires, etc. Parce que sans quoi, il n'y a pas de pérennisation de l'environnement numérique. Le plan informatique pour tous, les cartables numériques, etc. Ce sont des tas de plans qui ont été faits. Et en fait, si l'environnement plus large ne change pas, malgré l'outil qui est promu par souvent le ministère d'ailleurs, eh bien à ce moment-là, ça ne va pas durer cette affaire. Mmh. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie plus institutionnelle. Mmh. Ouais.
Une petite synthèse, quelques mots pour conclure aussi cet entretien, pour synthétiser finalement aussi. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir sur le concept d'affordance ?
Ben, ce qu'il faut retenir, c'est que l'affordance, c'est l'idée que ça dépend de la perception du sujet, mais que c'est ni une propriété du sujet, ni une propriété de l'outil, mais une propriété qui est permise par la rencontre entre les deux. Voilà, ça c'est la base. Donc, par exemple, un individu, il n'a pas la capacité de monter par lui-même. Donc, on va faire des marches. La, les marches a permis de monter le, et donc c'est l'idée, c'est, je pense que s'il y a un truc à retenir, c'est un, de concevoir des outils pour que les individus soient libres, de concevoir des outils en fonction des besoins des gens et non pas pour leur imposer un système qui soit idéologique, financier, etc. Et le troisième point sur l'affordance, c'est que du coup, si l'outil est bien conçu, on l'utilise ce pour quoi il est conçu, mais en fait, ce n'est pas l'outil qui nous invite à l'utiliser. C'est parce que la personne qui l'a conçu, elle l'a conçu en l'ayant adapté aux besoins des gens et au lieu où ils vivent, où ils travaillent, etc. Et pas l'inverse. Et donc, si on arrive déjà à arrêter de se demander à quoi sert l'outil, si quelqu'un nous dit à quoi ça sert, c'est qu'il n'a pas compris à quoi ça servait. Donc ça, c'est un peu curieux de lui demander de l'utiliser. Donc, il faut réussir à faire en sorte qu'une personne, elle voie immédiatement à quoi ça sert. Et en fait, l'affordance, c'est la perception immédiate d'un composant de l'environnement en vue d'une action. C'est la possibilité. Et donc, ça sera déjà un grand pas parce que, moi, de ce que je vois, c'est qu'on utilise beaucoup les outils comme un système de contraintes pour nous imposer une organisation du travail, une organisation de l'apprentissage, et non pas comme quelque chose qui nous permet d'être plus libre, si je puis dire, où c'est nous qui pilotons l'outil. Ce qu'il faut se rappeler quand même, c'est qu'au tout début de l'informatique, c'était l'outil qui pilotait, c'était les modèles comportementalistes notamment. Puis après, il y a eu des tas de projets, notamment un projet de Vannevar Bush qui s'appelle MEMEX, Memory Extender, où il y a eu la création après de la souris en 1962. Et ben, l'idée de la souris, c'est bien que le pilote de la machine, ça soit l'utilisateur. Et donc un moteur de recherche, par exemple, c'est nous qui décidons si on doit cliquer ou pas le mot-clé. Eh bien ça, pour moi, c'est fondamental. Il faut que les outils restent dans des espaces de liberté où le pilote, c'est l'utilisateur et pas l'inverse. Et des fois, on a l'impression que à la fois des systèmes logistiques, de paye, de réservation de salles, de systèmes qu'on utilise, ça ne nous permet pas d'être créatif, de transformer les choses, etc.
Alors ça sera un peu aussi la même chose sur les environnements, et notamment, pardon, je pense aux salles. Les salles, il y a quand même beaucoup de travaux, ou enfin, même beaucoup d'initiatives pour réorganiser l'espace d'apprentissage, concevoir des salles, etc. Et souvent, elles sont aussi très... c'est prescrit, c'est quand même très orienté, et donc finalement, ça rejoint un peu...
Ben, on sait que le prescrit, ça marche, ça conditionne. Et si quelqu'un vit quelque chose de très prescriptif, je vous donne un exemple. On avait fait un comparatif entre deux formations identiques avec un qui utilisait le forum et un qui utilisait le chat. À la fin, on a fait la même chose, on a interagi dans les mêmes temporalités et tout. À la fin, on a demandé aux étudiants, si vous devez, vous, utiliser un outil de communication dans l'apprentissage, vous utiliserez lequel ? Ben, ceux qui ont utilisé le forum, ils ont dit le forum, et ceux qui ont utilisé le chat, ils ont dit le chat. Donc, on est influencé par ce qu'on a vécu et par le degré de prescription. Donc, ça marche. Mais après, aujourd'hui, dans le mobilier, il y a des choses très... il est mobile, quoi. On peut le faire évoluer. Mais encore une fois, si l'outil il est adapté à vos besoins, même si c'est très prescriptif, c'est pas très grave. Prenons une classe virtuelle dans l'apprentissage. La classe virtuelle, elle correspond à l'université, à la culture des enseignants en fait. Ils vont faire du transmissif, par exemple, ils vont parler aux étudiants, ils vont leur poser des questions. Donc on pourrait se dire que c'est un outil qui est affordant de ce point de vue-là, parce qu'on peut immédiatement percevoir la potentialité de l'outil avant même de l'utiliser. Donc ça, c'est la phase, on est sur la première phase, je vois le possible, je l'utilise, je l'actualise en possibilité. Et lorsque je l'utilise, il y a des choses à la fois positives et négatives, c'est-à-dire qu'il se produit des choses, et le fait de ne pas voir les étudiants, par exemple, parce qu'ils coupent leur caméra, c'est quelque chose qui ne correspond pas du tout à notre... On n'a pas de savoir, en fait, par rapport à ne pas voir les étudiants, parce qu'on a, on se dit comment on va les réguler, est-ce qu'ils sont lâchés, est-ce qu'ils me suivent toujours, est-ce que... Si... Et donc, du coup, la relation pédagogique, si je puis dire ça, dans l'amphithéâtre ou dans la classe virtuelle, eh ben, elle peut pas se transposer. Donc, ça va faire un point de blocage. Mmh. En revanche, si dans la classe, il y a un chat et qu'il y a plein d'étudiants qui s'autorisent à poser des questions, ça va dynamiser l'enseignant parce qu'il voit des questions. Donc, après, dans la situation, les enseignants perçoivent d'autres possibilités. Par exemple, le fait d'avoir plus de communication avec la salle. Et à la fois, ils voient d'autres limites.
Comme le fait de plus les voir.
Voilà. Et donc, comme le fait de ne pas les voir et de ne pas savoir comment réguler la situation. Et quand la crise sanitaire s'est terminée et qu'on s'est dit, bah, tiens, il va avoir un effet des outils. La question, ce n'est pas de savoir si la classe virtuelle était adaptée ou pas. C'est de savoir qu'est-ce que l'environnement dans lequel était la classe virtuelle, l'université, l'école, je ne vais pas prendre la mienne parce que... Qu'est-ce qu'elle a fait pour pérenniser le fait d'utiliser la classe virtuelle. Est-ce qu'elle autorise à faire aujourd'hui des classes virtuelles ou pas? Est-ce que ça peut compter dans un service enseignant? Est-ce que c'est dans une maquette étudiant, etc. Et donc, si rien n'est fait, au-delà de l'enseignant qui a peut-être préféré voir les étudiants ou pas, eh ben, y a pas l'environnement, il ne s'est pas modifié pour accueillir l'outil. Et donc, forcément, ce n'est pas lié donc, à la qualité de l'outil. C'est lié à la place de l'outil dans l'environnement dans lequel il se situe. Et c'est ça qui est fondamental pour inciter les... si on veut favoriser les usages. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci.